Élémentaire, mon cher Nico. Une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, bonjour et bienvenue parmi nous aujourd'hui pour cette énième émission d'Élémentaire. On va parler de quoi aujourd'hui ? C'est quand même un événement comme chaque année. Ça fait 10 ans, c'est la 10e émission des JNQA pour les initiés. Sinon, si vous n'aimez pas les syllogismes, Journée nationale de la qualité de l'air. Énormément de sujets qui se passent partout en France sur cette journée qui est officiellement le 14 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 15 et nous sommes en direct. En ce qui concerne les journées, elles ont pris de l'ampleur et cette reconnaissance vis-à-vis de la prise en compte de la qualité de l'air est toujours intéressante puisque maintenant ça se passe toute la semaine et même un peu au-delà. La célébration de ces journées de la qualité de l'air, on s'aperçoit et c'est vraiment heureux que l'on s'inscrit dans le temps notamment et qu'on s'inscrit aussi dans la pluralité des échanges autour de ce sujet. On vous le rappelle, la qualité de l'air, elle est extérieure, elle est intérieure, elle est ce qu'on émet, elle est ce qu'on est capable aussi de traiter, mais surtout et avant tout, elle est ce que l'on est capable de bien faire pour l'améliorer, cette qualité de l'air. Les niveaux des problématiques respiratoires, les décès qui sont associés à celle-ci, ou toutes les autres, contraintes, sont toujours un travail de tous les jours et de longue haleine. Et on en voit encore les effets. D'ailleurs, en arrivant tout à l'heure à l'émission, à l'entrée du studio, j'ai deux personnes qui étaient en train de fumer leur cigarette et je leur ai posé la question si elles avaient conscience un petit peu de l'impact et du périmètre d'impact en termes de distance de leur cigarette autour d'elles. Et en fait, elles en avaient une réponse totalement sincère, elle n'en avait aucune espèce de connaissance et on voit encore qu'il y a du chemin à faire. Alors pour le rappel, la cigarette c'est entre 10 et 20 mètres d'impact autour de soi en périmétrique, je dirais horizontal, et ça peut aller jusqu'au 20 mètres, donc du cinquième étage d'un bâtiment. Et là il faut bien penser qu'un petit geste de fumer une cigarette, ça a un impact sur beaucoup de gens autour. Et ça rappelle aussi ce qui s'est passé à début d'année à Milan, en Italie, où la cigarette a été interdite sur les terrasses des cafés, bars, restaurants. Et pour cette raison, notamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont non-fumeurs, mais aussi des jeunes qui peuvent être impactés et qui n'ont pas demandé, eux, à avoir leurs poumons chargés de choses qu'ils ne désirent pas. Donc voilà un petit peu pour l'entrée en matière. Alors, il n'y a pas que la fumée de cigarette dans la qualité de l'air. On va vraiment beaucoup plus loin sur le sujet. Et aujourd'hui, dans cette émission spéciale, on va passer une heure ensemble avec nos différents invités, puisque vous faites partie de l'émission, vous aussi, chères auditrices, chers auditeurs. On commence. Nous avons autour de la table Claire-Sophie Quedvez du CRQA. Bonjour Claire-Sophie.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Comment ça va ?
Très bien pour cette journée de la qualité de l'air.
Bon, membre fondateur du CRQA, du Cercle de réflexion sur la qualité de l'air, et autre ?
Alors, membre fondateur du CRQA, et puis à côté, expert qualité de l'air au sein d'un bureau d'études qui s'appelle Medieco, qui fait partie du groupe Ispira. Et notre rôle, nous, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs du bâtiment à prendre en compte la thématique de la santé et notamment de la qualité de l'air dans la construction et la rénovation de toute typologie de bâtiment.
Et donc la santé, la qualité de l'air, les occupants, les bâtiments, ça va faire partie de notre fil conducteur un petit peu aussi de l'émission. On a beaucoup de choses à dire. Vous allez voir, ça va être une émission très riche, avec plein de petits sujets qui vont ouvrir les chakras de tout le monde. C'est ça le principe. À ta droite, un nouveau dans l'émission, bon, Monsieur Michel, Renaud Michel, de l'IMSGC, on va le faire plus simple, merci. Institut des métiers, du sanitaire et du génie climatique des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Bienvenue, mon cher. Merci.
Bonjour Nicolas et bonjour à tous.
Alors, ça fait quoi d'être là la première fois pour parler de notre ère ? C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour toi ?
Oui, complètement.
Complètement. Ah, c'est impressionnant ?
Oui,
un petit peu. Mais tu es bien entouré parce que tu as les deux personnes qui sont un peu les piliers aussi de l'émission, qui viennent régulièrement, puisque le principe aussi de l'émission, c'est de venir régulièrement pour parler de l'évolution du sujet. Et ça, c'est important d'avoir des jalons que l'on peut suivre dans le temps. Priscilla Pettinga, bienvenue ma chère Priscilla, membre fondateur aussi du CRQA.
Bonjour Nicolas.
Comment vas-tu ? Que fais-tu d'autre dans la vie, peut-être à côté de...
Alors, en parallèle d'être membre fondateur du CRQA, j'ai aussi une activité associative au sein de la ICVF, donc aussi en tant que pilote qualité d'air et de ventilation. Et professionnellement, j'ai ma société d'audit et de ventilation en qualité d'air. Et je fais aussi de l'expertise judiciaire près de la Cour d'appel de Lyon.
D'accord. Bon, on va parler de ce que tu découvres aussi sur les chantiers, un petit
voilà,
peu.
Voilà, exactement. Hein,
puisqu'on va parler aussi des chantiers avec Renaud et surtout aussi de la formation, puisque l'Institut des métiers des compagnons du devoir sur le génie climatique a une part de formation sur les métiers de la ventilation, qui n'est pas anodine dans nos bâtiments. Sophie Boquillon, bonjour Sophie, bienvenue à nouveau. Donc toi, tu es responsable des relations extérieures France, Eurovent Certita Certification. Bienvenue à nouveau, ma chère.
Exactement ça. Tu t'es très bien débrouillé, Nicolas.
T'as vu, je travaille énormément et je reçois des gens d'Eurovent aussi régulièrement, puisque la partie Eurovent, c'est la certification des matériels pour s'assurer qu'ils fonctionnent dans des conditions définies, performantes, pour obtenir des résultats.
Parfait.
Et on reviendra sur les résultats, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui convient d'ancrer dans le futur de nos prises en compte.
Exactement.
Voilà. À l'heure actuelle, on n'a que des obligations de moyens.
Oui.
Ce qui fait un peu léger quand on veut travailler un peu sur un sujet de santé qui devient de plus en plus fort au regard de la ventilation. Et pour terminer avec nous, un petit nouveau également, Clément Jeannot. Bonjour Clément.
Bonjour, bonjour à tous.
Président de la société
SNRC Ingénierie.
Ingénierie.
Voilà, donc on est bureau d'études fluides et thermiques. Donc on intervient de la conception à l'exécution. On accompagne maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage dans la conception des bâtiments, que ce soit logement collectif neuf ou logement tertiaire, enfin ou tertiaire pardon.
Mmh.
Voilà, donc avec les architectes et ou directement les maîtres d'ouvrage.
Et là, on
donc,
va parler
concevoir des bâtiments et donc à mieux concevoir en tout cas.
Et mieux concevoir par le biais des réseaux de ventilation.
Exactement,
aussi,
tout à fait.
Qui va se rapprocher, le sujet va se rapprocher de ce que tu vas échanger avec Renaud, avec tout le monde, hein, bien entendu, autour de la table. Mais il y a quand même pas mal de choses hein, au regard de ce qu'on va trouver, le système de ventilation, puisqu'on va aller de la conception jusqu'au diagnostic maintenant.
Ça démarre à la conception et ça va même au-delà de notre mission d'exécution, puisque ça se poursuit aussi. Voilà,
c'est un vrai travail. Oui. Important et c'est
absolument.
Une ingénierie, hein. On n'est pas là avec de faire ça, se dire tiens je vais mettre ça comme ça à tel endroit, on va faire quelque chose
absolument.
De bien dans le logement, c'est pour ça que dans les logements s'il y a des éléments d'entrée d'air, il convient de ne pas les boucher parce qu'ils ne sont pas faits pour être bouchés. Petit conseil auprès de tout le monde
absolument.
Déjà dans un premier temps. En ce qui concerne les sujets, on va démarrer justement avec Claire-Sophie, avec Priscilla, vous choisissez laquelle des deux va commencer, au niveau du CRQA, Cercle de Réflexion sur la Qualité de l'Air. Un petit mot de ce que c'est que le CRQA, mais surtout, vous venez pour présenter la nouvelle note du CRQA qui parle des indicateurs de la qualité de l'air intérieur.
Oui.
Et de quelques définitions dont on reviendra juste après. Le CRQA.
Alors, Priscilla. Le CRQA, donc, c'est un cercle de réflexion sur la qualité d'air qui rassemble des acteurs qui travaillent dans ce milieu-là, des scientifiques honorables aussi. Et on a créé ce cercle pour avoir une voix commune, pour avoir un message porteur permettant vraiment d'améliorer la qualité d'air au sein des bâtiments pour le bien-être des occupants et vraiment en toute bienveillance envers eux.
Ah, le mot progrès pour les occupants et bienveillance, c'est le maître mot. Et il y a aussi, alors, outre les scientifiques, les experts, il y a aussi des médecins hein, qui
oui,
en font partie,
médecins,
je crois. On ne peut pas se décorer de ça, c'est tout ce que l'on voit. Hein, notre meilleur air va nous faire une santé qui va être préservée déjà. L'améliorer, c'est une chose, mais au moins la préserver, pas la dégrader, ce sera déjà pas mal. Au regard, quand on le voit, hein, dans encore quelques chiffres, hein, quand on voit des enfants qui ont 15, 18 ans et qui ont des pathologies de personnes de 60 ans, alors que ça n'arrivait pas, on voit qu'il y a un moment donné, il va falloir y faire attention. Et ces pathologies surviennent alors que c'est lié à cette qualité de l'air, hein, ces charges qu'on a notamment au niveau des particules et autres. Alors, oui,
et donc, plaisir. Dans ce cercle de réflexion, on émet des notes, dont la dernière, c'est sur les indicateurs de qualité d'air, où on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on donne toutes les définitions de tous les termes qu'on rencontre aujourd'hui, de façon à pouvoir parler le même langage et avoir vraiment des notions qui soient représentatives de la réalité.
Et créer peut-être un élément de comparaison entre tout ce que l'on dit, parce que je suis un fidèle de tous les réseaux sociaux et je vois passer aussi beaucoup sur la qualité de l'air, une évolution, hein, ça fait quand même l'émission, ça fait 8 ans aussi qu'elle existe, donc, et on voit passer beaucoup de sujets, et des sujets notamment maintenant où ça noie un petit peu la précision qu'on peut en trouver. Tout le monde par exemple va dire, moi je fais une bonne qualité de l'air parce que je traite ça, mais la qualité de l'air ça s'arrête pas à un seul point, Claire-Sophie.
Oui, tout à fait. Il y a deux choses dans les indicateurs de qualité de l'air. Il y a la définition globale, qu'est-ce qu'on prend en compte quand on parle de la qualité de l'air intérieur. Et puis la note sur les indicateurs, elle était aussi intéressante parce que réseaux et puis globalement réseaux sociaux et puis nos réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses de valeur obsolète, mais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de changements, de nouveaux décrets, et c'est vrai que pour faire comme Priscilla beaucoup de mesures dans des bâtiments, on arrive, tout le monde s'est mesuré. Ça, aujourd'hui, beaucoup de gens savent se servir de la mesure. Mais une fois qu'on mesure, je vous assure que vous arriverez toujours à trouver des polluants dans l'air intérieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces différents seuils? Comment est-ce qu'on les interprète? Et c'est là qu'en fonction de la valeur et de l'indicateur qu'on prend, l'interprétation, elle peut être très différente. Donc, repartir sur une note commune qui fait l'objet, elles ne sortent pas d'un coup, elles font l'objet de débats et d'échanges pour qu'on se mette un peu, pour qu'il y ait un consensus qui soit trouvé. C'est essentiel, justement, pour essayer de faire avancer le sujet et puis de prendre de voir les éléments qui sont importants sur lesquels il faut agir.
Ouais, pour avoir, et c'est noté en préambule de la note, un air qui ne nuise pas à notre santé.
Tout à fait.
C'est déjà pas mal. Et les travaux pour ces notes ne sont pas des travaux qui durent une heure ou deux.
Oui, c'est des travaux qui durent sur plusieurs réunions, qui deviennent aussi un consensus entre tout le monde. Elles sont finalisées et votées à l'unanimité, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver et avoir vraiment cette voix commune dans ce domaine.
Alors justement, l'unanimité, c'est toujours bien. Je pense que certains membres autour du Parlement en France, unanimité, elle n'y est pas. Donc là, ça fait toujours plaisir de savoir qu'au moins tout le monde peut s'entendre sur un sujet qui est extrêmement pointu et extrêmement prégnant aussi. C'est un petit clin d'œil à nos amis députés, je pense. Mais par contre, on va retrouver, il y a quelques définitions qui méritent d'être posées. Alors sur la qualité de l'air, c'est vrai que ça va être... Quand elle a été énoncée, il y avait quelques éléments à remettre en perspective. Qu'est-ce qu'une bonne qualité de l'air?
J'y vais. Une bonne qualité de l'air, en fait, c'est quand on va avoir, l'ensemble des polluants qui sont inférieurs à des concentrations sur lesquelles on n'attend aucun effet sur la santé des occupants d'un bâtiment. Ce qui ne veut pas dire qu'une bonne qualité de l'air, c'est quand il y a zéro polluant, puisqu'en soi... C'est techniquement impossible.
C'est impossible, on est bien d'accord.
Mais chaque polluant ne doit pas dépasser certaines concentrations d'intérêt, certaines concentrations sanitaires. Et c'est à partir du moment où on a un ou plusieurs polluants qui dépassent ces concentrations qu'on va qualifier l'air de mauvaise qualité de l'air intérieur.
C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, quand on parle, et on le voit régulièrement, on parlait tout à l'heure des réseaux ou de toute autre communication, si je traite un polluant et que je dis je fais une bonne qualité de l'air, ça ne marche pas.
Non, c'est pas possible. Pour deux choses. Déjà, il n'y a pas qu'un polluant dans la qualité de l'air. Et en plus, on a des interactions entre ces polluants. Ce qui est compliqué à appréhender quand on parle de qualité de l'air intérieur, c'est que ça reste de la chimie. Et qu'il y a ce qu'un matériau, ce que les sources de pollution vont émettre. Et puis, il y a tout ce qui se passe après à l'intérieur des bâtiments. Du coup, l'objectif, c'est quand même d'avoir l'ensemble des polluants qui respectent les seuils sanitaires.
Et en plus de l'aspect pollution... On a aussi l'aspect perception et bien-être et confort qu'on a aussi intégré dans cette bonne qualité d'air. Il y a des gens qui ressentent une gêne dans une ambiance qui est un petit peu confinée, par exemple. Et cette notion aussi est intégrée dans la sensation d'avoir une bonne qualité d'air ou pas.
D'accord, donc il y a la perception qui est importante.
Importante.
Et aussi, il y a la perception. Tu parlais, Claire-Sophie, tout à l'heure de, je dirais, des indicateurs de la mesure. Tout le monde peut mesurer. On a aussi, moi, pour avoir échangé avec une personne du GIECO, on a aussi cette faculté à croire ce qui nous convient le mieux. Aussi finalement, quelque part, puisque Stéphane nous disait, un petit détecteur de assez modeste sur soi, on aura plus confiance en lui, finalement, par les différentes études qui ont été menées, que celui qui fait des mesures en tant que professionnel. Et là, c'est aussi un effet où il faut savoir écouter ce qu'on nous dit et qui a été quand même établi de manière forte. La science, elle est là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous emmener là où il ne faut pas, bien entendu.
Et puis, la définition d'indicateurs précis, elle est essentielle pour intervenir sur différents cas dans des bâtiments où il y a des problématiques d'odeur. La qualité de l'air, ça reste un sujet qui est assez anxiogène. Et savoir qu'on est exposé à des polluants qui potentiellement ont un effet sur notre santé, ça crée des symptômes qui peuvent être liés à l'anxiété, parce que les seuils de polluants ne sont pas dépassés. Et du coup, d'avoir des indicateurs qui permettent de dire qu'en dessous ces seuils, on n'a pas d'impact sanitaire, c'est essentiel pour gérer ce type de situation.
Ça peut être très, très, très anxiogène. Très anxiogène. En ce qui concerne d'autres petites définitions, on va en profiter, il y en a encore une ou deux à vous poser comme question. Existe-t-il un air pur ?
Alors, la notion d'air pur n'existe pas.
Voilà, donc ça c'est fait. Donc tous ceux qui nous disent on va vous faire un air pur, ça ne peut pas marcher.
Non, ça ne peut pas marcher parce qu'il y aura toujours des traces ou des éléments qui seront présents et un air, que ce soit extérieur ou intérieur, ne pourra physiquement et scientifiquement ne pas être pur.
Voilà un point d'éclairci. Au moins, ça c'est fait. Hein, on va arrêter de dire un peu tout. C'est peut-être ça aussi quand il y a beaucoup de promesses sur. On se dit, on va vous faire un air pur. On croit qu'on va avoir quelque chose de bien. Et si finalement derrière on ne l'a pas, on est encore plus déçu. Là, faut quand même qu'on va aller chercher quelque chose, comme disait Claire-Sophie, de bonne qualité et le meilleur possible, finalement, au travers de tous les éléments dont on va avoir besoin. Autre point. Allez, la dernière question sur celui-ci. Après, on rentrera dans quelques indicateurs. Existe-t-il un air sain ?
Alors, un air.
Pas mal ça. Hein. On met aussi l'état sanitaire à toutes les sauces. Hein, donc.
Oui, alors un air sain, sur la notion d'air sain, c'est un petit peu complexe aussi parce que ça dépend de l'état de sensibilité de la personne, de son état médical. Donc il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Donc est-ce qu'un air sain pour quelqu'un va être sain pour une autre personne ? C'est pas dit. Donc derrière cette notion, c'est un peu complexe. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'un air sain peut être défini comme un air qui va pas impacter justement la personne avec des concentrations les plus faibles possibles en polluants et en dessous des impacts sanitaires pour cette personne.
Quelque part, qui va rester pour lui, je le vois sur l'autre notion, un air ne devant pas contenir de polluants impactants sur la santé et ne renfermer que des niveaux très faibles de polluants pour n'avoir aucun effet nocif sur la santé. Voilà, donc voilà, c'était éclairci. Là, je pense que c'est des petites notions qu'il fallait remettre en perspective parce qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment usité un peu dans tous les sens.
Et puis, quand c'est important ces notions, parce que dans beaucoup de communication, c'est vrai que cette notion de qualité de l'air des bâtiments qui garantissent un air sain, en soi, moi, ça me paraît assez compliqué. On peut garantir un air qui respecte la santé des occupants, mais la notion d'air sain, comme elle n'a pas de définition en tant que telle, je trouve ça difficile à mettre dans un écrit.
Oui, et puis un médecin qu'on connaît bien tous les trois nous a dit l'air sain n'existe pas, puisque dans un état de santé normal, si on avait un air qui nous rend encore en meilleure santé que ce qu'on est, c'est pas possible. Donc finalement, on se retrouve avec à essayer de faire le mieux possible, mais il faut faire très attention à ces termes à usiter. C'est pas forcément une bonne précision que de les utiliser n'importe quoi, n'importe comment, pardon. Et surtout de dire, moi je sais bien gérer un air sain, puisque je vais vous enlever un polluant et je vais vous faire un air sain. Non, ça marche pas. Ou même deux ou trois. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça, la notion, beaucoup plus forte. Alors, cette notion et de tous ces polluants à considérer, et après, on passera justement le traitement avec les réseaux et tout ce dont on a besoin. On a plusieurs éléments de polluants à considérer. Alors, je pêle-mêle le composé organique volatile totaux, le CO2, la PM, les particules fines en 2,5, les formaldéhydes, dioxyde d'azote, benzène, monoxyde de carbone au cas, le radon et d'autres. On parle des débits de ventilation, des taux de renouvellement de l'air, de l'âge de l'air, humidité relative. Voilà, est-ce que parmi tout cela, parce que c'est ceux qui sont aussi dans la note que vous avez énumérée, notamment, et le risque fongique, est-ce qu'à un moment donné, on peut se départir de se dire on n'en prend que quelques-uns ?
C'est la grande question que beaucoup de gens se posent actuellement. Je pense que tous ces indicateurs sont importants. Après, en fonction de quand est-ce qu'on va les regarder dans la vie du bâtiment, ils n'ont pas exactement tous la même importance. Prenons par exemple quand on est en phase conception. Donc, on va s'interroger sur quel type de système, comment est-ce qu'on va limiter le transfert des polluants, par exemple, qui viennent de l'extérieur, ce qui est un élément essentiel. Du coup, on ne va pas prendre en compte tous les polluants. Et donc, on va s'intéresser aux indicateurs des polluants extérieurs, donc les particules fines, les PM2,5, le dioxyde d'azote. On peut aussi parler du benzène. Ça, c'est les premiers indicateurs à regarder si on veut s'interroger sur quel système de ventilation doit être mis dans le bâtiment et quel niveau de filtration ou non peut être installé dans
donc
le bâtiment.
Donc là, on est sur du renouvellement de l'air et du traitement.
Tout à fait.
Donc on doit bien penser, on doit le penser de cette manière-là.
C'est parce qu'on a une source à l'extérieur et parce qu'on s'intéresse à la phase conception. Et plus on va avancer dans les phases du bâtiment, les indicateurs peuvent s'élargir parce qu'on va regarder d'autres choses. Et je pense notamment dans les premiers indicateurs qui me viennent, qu'on ne regarde pas forcément en conception, on a certains composés organiques volatiles qu'on va plus regarder au moment de l'usage parce qu'ils sont plus liés aux produits qu'on utilise chez nous ou dans les différents bâtiments, par exemple comme les produits d'entretien.
Les produits d'entretien, ça ne sont pas forcément nos amis, bien évidemment. Ça dépend comment on les utilise, avec quelle dose, avec quel mélange et à quelle fréquence aussi. Hein.
Globalement, tout ce qui a une odeur n'est pas forcément notre ami.
C'est ça, c'est ça.
Donc les produits d'entretien ont une odeur, notamment pour du marketing olfactif, parce que c'est quand même plus sympa d'acheter des produits qui nous donnent un air.
Il y a des endroits, vous avez
une forêt à la maison.
Ouais. Ou une forêt, ou carrément, il y a des boulangeries qui ont des diffuseurs d'odeur de pain, de chocolatine,
aussi.
On va dire.
Ça a été testé, les diffuseurs d'odeur, dans les parkings souterrains. Justement pour cacher aussi d'autres problématiques. Et c'est vrai que tout ce qui va arriver au niveau de l'odorat, qui va avoir une odeur plutôt rassurante ou en tout cas qui rappelle des choses à l'occupant, nous, pour la qualité de l'air intérieur, ce n'est pas effectivement nos meilleurs amis.
En tous les cas, ça veut dire qu'il faut bien prendre en compte son bâtiment, il faut bien prendre en compte la manière dont on va préparer ce renouvellement d'air et ce traitement. On reviendra sur le renouvellement d'air tout à l'heure dans l'émission. Et surtout, on va aller regarder maintenant la considération de comment on va prendre en compte notre air dans notre bâtiment au regard de, avec l'œil de ton œil, Clément, notamment par rapport à l'ingénierie, puis avec celui de Renault.
Mais effectivement,
on regarde l'extérieur pour bien faire à l'intérieur, mais pour bien faire à l'intérieur, il faut prendre quoi en compte ?
Il faut surtout déjà intervenir le plus tôt possible dans le projet.
Voilà. Plusieurs phases, évidemment, sur lesquelles il faut regarder.
Je pense qu'il faut savoir intervenir le plus tôt possible dans le projet, dès l'origine du projet, pour pouvoir prendre en considération donc, l'architecture du bâtiment, pouvoir y intégrer la solution adaptée.
Ça veut dire que dès les premiers coups de crayon de l'architecte personne qui va en faire l'étude, il faut absolument le considérer.
Malheureusement,
ça paraît une évidence.
Ça paraît une évidence, mais ce n'est pas forcément le cas. On arrive souvent sur des conceptions où le bâtiment est déjà présent. Parfois, le permis est même déjà déposé. Et il faut, en fonction de l'exigence du client, revoir tout un système qui n'est peut-être même pas forcément adaptable au final au projet. Donc, plus on intervient en amont, plus on peut, mieux on peut en tout cas adapter des solutions. Je pense notamment à la VMC double flux, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, nous, on fait beaucoup de logements neufs. Le logement neuf, c'est majoritairement de la ventilation mécanique en simple flux. Hygroréglable, certes, mais en simple flux. Si aujourd'hui, on n'intervient pas en double flux, si on veut installer une double flux et qu'on n'intervient pas dès le début du projet, il est compliqué de le mettre en œuvre. Compliqué de le mettre en œuvre parce que la double flux, c'est des contraintes de canalisation, des contraintes de réseau.
Et puis des contraintes de réseau, il faut gérer les bons réseaux aussi, parce qu'il faut pouvoir gérer, parce que dans les phases dont on va parler, on a quand même la conception, ce que tu es en train d'évoquer Clément, mais par contre on va avoir aussi la réception, ce que tu disais aussi Claire-Sophie il y a quelques instants, on va avoir le suivi, usage, monitoring, mais on va avoir aussi les inspections et les entretiens. Et là, il va falloir que ce qui est prévu au départ nous permette d'avoir des entretiens faciles. Et à l'heure actuelle, certains types de gaines utilisés sont performantiel au niveau de laisser passer correctement l'air plutôt compliqué. Et c'est ça que tu vas regarder en étude.
C'est ça, nous, qu'on regarde. Alors, on le conçoit dès le début. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on prend un bâtiment qui, en général, n'est pas conçu en réseau. Il n'y a aucun réseau, que ce soit en fluide, en chauffage ou en aérolique. Et on va, en fonction donc, de... Alors, si, par exemple, je prends une double flux, on va étudier les passages de réseau. On va étudier l'implantation des gaines, les ramener jusqu'à la centrale de traitement de l'air. Et donc, c'est tout ça qu'on doit organiser, qu'on doit, intégrer dans l'architecture du bâtiment, puisque ça prend de la place. C'est des gaines, c'est des faux plafonds.
Ça fait partie de la structure même de base.
Ça fait partie, sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de projets ne le prennent pas en compte. Vous avez des gaines trop petites. Vous avez des trappes de visite qui n'existent pas. Il faut y penser aussi pour notamment
des accès aux collecteurs de soufflage ou de reprise d'air.
Il faut pérenniser l'installation. Parce que c'est bien de la concevoir, effectivement. Il faut installer. Il faut aussi qu'elle se réalise dans de bonnes conditions et il faut qu'on puisse l'entretenir. Si vous n'avez pas les trois étapes, si l'une des trois étapes est bâclée, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc il faut bien le concevoir. Il faut qu'à l'exécution, bien sûr, la conception soit respectée. Il ne faut pas qu'il y ait de changement entre deux. Mmh. Et après la réalisation, il faut que la réalisation permette la maintenance de ces installations. Si vous ne maintenez pas l'installation, l'installation a peu, a peu d'intérêt. Mmh. Et même aujourd'hui sur la VMC, trop nombreuses installations ne sont pas maintenues. On intervient trop souvent, même dans le cadre d'expertise en dommages ouvrages sur des bâtiments où... on a trop souvent des VMC qui ne fonctionnent pas, où les débits d'air ne sont plus ce qu'ils devraient être, et parce qu'il n'y a pas de maintenance derrière.
Alors les débits d'air, on y reviendra tout à l'heure avec le taux de renouvellement, mais il faut savoir aussi que ce renouvellement de l'air est nécessaire puisqu'il va avoir quand même deux fonctions quand il est maîtrisé. C'est un, on va, ce que disait Claire-Sophie, on va évacuer les pots, éviter d'en faire rentrer. Si on peut filtrer avec le type de matériel, on va assurer une dilution et un confort à l'intérieur qui va être température, hygrométrique, et puis également la charge qu'on va trouver à l'intérieur. Hein. Oui. Quand le Haut Conseil de la Santé publique dit que nos taux de CO2, notamment pour parler d'un des indicateurs, doit être inférieur à 800 pour éviter les transmissions virales notamment ou bactériennes, il faut qu'on ait une très petite part de ces agresseurs, on va dire ça comme ça, dans notre air. Et puis derrière, si on va avoir une mauvaise gestion, ça force trop imaginons de l'encrassement ou des mauvais passages. Là, oui. C'est les moteurs qui vont consommer de trop, et là, ça va coûter sur la consommation des moteurs. Mais après, si on a quelque chose de mal réglé et qui laisse filer l'air de trop ou pas assez, on va peut-être avoir des renouvellements d'air, notamment en hiver, qui vont nous dire je réchauffe l'air que je rentre beaucoup trop. Donc il va falloir que ça se soit aussi mesuré pour qu'on se dise pas, tiens, là j'ai chaud, là j'ai froid, mais qu'on soit en mesure de cette acceptation qui manque énormément, de dire oui, mon air doit être un peu renouvelé et il me coûte un peu de chauffage pour pouvoir bien faire.
C'est ça, tout à fait.
On peut pas faire du zéro, on peut pas être au plus bas. Ça fait des années qu'on va vers du plus bas possible de réduction énergétique, mais là ça reste une contrainte par rapport à ça. Eh bien, à ce niveau, d'autres points, là, pour la maintenance, notamment.
Alors, pour la maintenance, il y a deux aspects pour la maintenance, pour moi, en tout cas. Il y a, bien sûr, la vie du bâtiment, donc qui doit être... on va dire les installations qui doivent être maintenues donc, par des professionnels, notamment si, que ce soit de la VMC en simple flux, en double flux ou autre système.
Alors, quand on parle de VMC simple flux, c'est extraction.
Oui, tout à fait.
Et insufflation, il y a les deux.
Oui.
Parce qu'au niveau des définitions, il y a des choses qui ne sont pas toujours dites précisément.
En simple flux, on ne fait qu'extraire. En double flux, on insuffle et on récupère.
Mais il y a la VMC qui sait aussi insuffler. Donc il y a les quatre.
Là, je parle vraiment sur ce qu'on peut trouver aujourd'hui en logement neuf. Mais il y a aussi, je pense, une sensibilisation du locataire ou en tout cas de l'occupant du logement. Ça doit passer par là aussi, parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde a, on va dire, une vague idée de ce qu'est la qualité de l'air. Beaucoup trop de personnes pensent que le simple fait de fermer ses fenêtres et de rentrer chez soi, on n'a pas le même air à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et beaucoup, justement, c'est ce dont tu évoquais par rapport au fait qu'en hiver, il faut considérer qu'on va ramener de l'air frais et donc compenser par le chauffage. Beaucoup trop de personnes bouchent leurs entrées d'air, n'entretiennent pas leur bouche d'extraction, et on se retrouve parfois justement avec des problèmes de polluants du coup dans le logement, qui aujourd'hui n'est pas forcément mesuré dans un logement, mais nous on va beaucoup le remarquer, notamment par des pointes d'humidité trop importantes sur certaines zones des logements, parce que tout simplement la ventilation ne fonctionne peu ou pas.
Et puis quand elle fonctionne peu ou pas, vu des bâtiments de plus en plus étanches, on se retrouve avec des problématiques fongiques, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait.
Hein ? Plutôt beaucoup même. Hein ?
Oui, quand l'air n'est pas renouvelé, notamment en logement. Alors en tertiaire, on a souvent la problématique inverse, il n'y a pas assez d'humidité. Et du coup, on a un air trop sec et ça fait aussi des problèmes sanitaires.
Pour nos muqueuses et notre peau, c'est pas bon. Hein,
et à l'inverse, en logement, on a souvent trop d'humidité parce que le renouvellement d'air n'est pas assez bon et qu'on a des sources d'eau plus importantes, la douche, la cuisson. Et que si elles ne sont pas assez évacuées, effectivement, et en plus que le bâtiment est mal isolé, on est sûr qu'on a un nid à moisissure ouvert.
Alors, on va s'arrêter sur cette parole de nid de moisissure ouvert, mais on ne va pas rester là-dessus. On va revenir après la petite pause pour parler justement si on doit traiter correctement cette ingénierie qui était prévue en amont, de bien considérer le système qui va nous apporter un bon fonctionnement pour un bien-être. Ce système, il va fonctionner avec des matériels qu'il va falloir aussi qu'ils soient qualifiés, certifiés, comme il se doit, et Sophie nous expliquera ça. Et puis, derrière tout ça, sans une bonne formation, on n'ira pas bien loin, et on reviendra pour finir sur le taux de renouvellement et les débits d'air, parce que ça aussi, c'est un vrai grand sujet. On écoute tout de suite un petit peu de musique choisie par messieurs, qui sont les nouveaux de l'émission, donc c'est, ça leur incombe. Queen, We Want to Live Forever. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? On est reparti sur l'émission spéciale pour les 10 ans des Journées Nationales de la Qualité de l'Air de Élémentaire, mon cher Nico, en présence et avec nos invités experts notamment, et avec un grand plaisir de les retrouver, Priscilla Pettinga du CRQA, Renaud Michel de l'ISMGC, Institut des métiers du génie climatique, des Compagnons du Devoir et du Tour de France, Claire-Sophie Quedevez qui est du CRQA elle aussi, Sophie Bocquillon de Revent Certita Certification et Clément Jeannot, président de
SNRC, Ingénierie.
Ouais, c'est ça. Je mélange les lettres, trop de lettres, hein, ouais, trop de syllogismes. Donc on revient sur l'émission, après cette courte pause musicale avec Freddie Mercury notamment. émission très solennelle avec We Want to Live Forever, évidemment, mais également avec derrière un personnage qui n'avait qu'une seule envie, c'était de vivre et de pas s'encombrer. Lui, il avait besoin d'air pour bien chanter, et on va revenir dessus notamment. On parlait juste avant la coupure des besoins que l'on a de bien dimensionner, bien choisir le système de traitement de l'air qu'on va avoir dans tous les lieux de vie dans lesquels nous sommes, et d'ailleurs au regard des indicateurs de qualité de l'air, et de savoir ce que l'on va faire par rapport à la prise en compte de l'extérieur, de l'intérieur, et notamment également de tout le suivi derrière installation, donc conception, installation, maintenance et suivi. Et pour arriver à cela, il faut savoir que dans cette conception, elle est très importante, mais elle ne se fait pas sans avoir fait le bon choix sur les matériels dont on va avoir besoin pour ce traitement de l'air. Et donc, ma chère Sophie, quelques éléments de nous expliquer un petit peu ce en quoi les matériels sont importants, mais surtout ce en quoi une certification et de s'assurer qu'ils fonctionnent dans les conditions requises est importante.
Alors, chez Eurovent Certita Certification, on accompagne les industriels du génie climatique dans la promotion des systèmes de génie climatique, et on va définir différentes opérations d'évaluation pour garantir la conformité des résultats qui sont annoncés par ces fabricants. Plus précisément, dans le cadre de la ventilation, on certifie des équipements, que ce soit de la simple flux, également de la double flux, pour le résidentiel et également pour le collectif et le tertiaire.
Est-ce que ce sont des certifications, je pense qu'elles sont extrêmement engageantes, et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, on amène la machine, elle marche un petit peu. Non, c'est vraiment des protocoles qui vont chercher différents points sur le matériel ou sur le système peut-être aussi complet.
Alors, c'est engageant pour l'industriel, puisqu'en fait, il est soumis à cette transparence. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord avec les règles qu'on a établies, d'accord avec les règles du jeu. Et que si jamais le matériel n'atteint pas ce qu'il espérait, il a plusieurs solutions. Soit il va venir dégrader ses performances, afficher des performances dégradées. Soit il peut aussi sortir de la certification et communiquer comme il le souhaite. Quand il est certifié, en tant qu'organisme de certification, on va vérifier la communication qui est faite sur les performances de ces systèmes. On a plusieurs types de certifications. Donc sur les équipements en tant que tels, on a également lancé une certification qui va utiliser les performances des différents composants d'un système de ventilation, que ce soit les groupes, les réseaux, les entrées d'air, les bouches, etc. Et on va venir, par modélisation, simuler plusieurs scénarios possible pour déterminer une bonne performance et de la qualité de l'air et aussi l'efficacité énergétique. On en a parlé précédemment, on a beaucoup travaillé sur l'efficacité énergétique, on le verra peut-être après avec le PBD qui introduit cette notion de ventilation, mais voilà, nous ça nous semblait important de pouvoir mettre en balance à la fois l'efficacité énergétique et la qualité de l'air intérieur. Donc on va travailler sur trois indicateurs aujourd'hui de cette qualité de l'air intérieur et bientôt un quatrième.
D'accord, trois indicateurs qui sont, on peut les spécifier, ouais.
Le CO2,
d'accord.
COV, l'humidité, et prochainement les particules fines.
Les particules fines, sachant que les particules fines, un, ça fait partie de ce qui est le plus impactant, hein, puisque c'est 60% des décès qui sont liés aux particules fines pour les problématiques de qualité de l'air, et puis dans les logements, hein, quand on fait les mesures, Priscilla et Claire-Sophie me contrediront pas, hein, on va les trouver beaucoup, où ça, dans quelle pièce de nos lieux de vie?
Les particules fines ?
Oui.
Bah, ça dépend de ce qu'on fait. Mais...
la cuisine, beaucoup. Hein, ouais. La cuisson notamment, qui imaginez le morceau de beurre qui rissole dans la poêle, c'est cool, mais il y a beaucoup d'émissions autres.
Après, ceux qui utilisent de l'encens, bah, ça va être dans le salon.
Ouais. J'ai croisé quelqu'un hier qui m'a posé des questions sur l'encens. Curieusement, il m'a dit « je ne vais plus en mettre ». Parce qu'il avait, il était comme les deux personnes que j'évoquais au début de l'émission, il ne savait pas du tout, oui. Finalement, c'était un bien-être qui était psychosociologique, mais oui. Qui n'était absolument pas fondé sur...
Il y a le papier
sur...
d'Arménie qui a été vu pendant longtemps comme quelque chose de purifiant l'air intérieur, et qui est encore utilisé aujourd'hui.
Et toujours vendu en pharmacie, et vendu pour purifier l'air. C'est
sympa, ça.
Ah, c'est très... C'est... très intelligent. Mais du coup, je voulais juste rebondir sur les particules fines. Je trouve ça très intéressant de l'intégrer comme indicateur, parce qu'effectivement, comme tu disais, c'est le plus impactant. Mais comme tout le monde veut toujours parler d'économie, c'est aussi le plus coûteux. coûteux. Alors, quand on parle de coûts en qualité de l'air, c'est les coûts induits. C'est pas comme l'énergie. Nous, en qualité de l'air, c'est pas un résultat direct sur la facture des occupants. C'est un coût sociétal, le coût des médicaments que les gens consomment parce qu'ils sont malades, la perte de productivité. Et c'est vrai que les particules fines, sur les 19 milliards d'euros liés à l'impact de la qualité de l'air dans les bâtiments en France, les particules fines, c'est 14 milliards d'euros. Donc c'est vrai que c'est pas rien.
C'est pas rien, et d'autant plus, il y a eu un rapport de Santé publique France qu'on a déjà évoqué ici à l'émission, qui est tombé au mois de janvier de cette année, et qui explique qu'on a chacun une note de 198 euros par personne et par an sur le coût de la santé associé à la mauvaise qualité de l'air. Donc ça commence à faire beaucoup. Et quand on veut aller chercher de manière un peu plus vertueuse ou plus prévenante pour chacun d'entre nous des systèmes qui vont bien, c'est pas de se dire sur le moment « Ah là, il m'a coûté cher », mais vous imaginez, ça veut dire quand même ça fait 800 euros par an pour une famille de 4 personnes. Quand on le met au regard d'un système qui est plus performant, bah c'est peut-être une acceptation qui se pose sur 5 à 6 ans, mais qu'est-ce que c'est 5 à 6 ans devant nous au regard d'un système qui va être préservant finalement pendant 25, 30 ans facilement, à partir du moment où l'entretien est quand même correctement fait sur le sujet. Notamment, en ce qui concerne aussi les certifications, je sais que c'est quelque chose qui te tient aussi à cœur, ma chère, mais on parle d'obligation à l'heure actuelle de moyens. Il y a sûrement des choses qui devraient nous amener à aller un peu plus loin que ça. Parce que quand on écoute Claire-Sophie, oui, il faut absolument qu'on traite ces problématiques de particules ou autres dans notre logement, mais derrière, est-ce qu'on a quelque chose qui est en regard et qui dit « il faut le faire »
Alors, les obligations de résultats, c'est un sujet, et je pense que c'est dans le sens de l'histoire. Il faut y aller vraiment par étapes et en accompagnement pour que tout le monde adhère, en tout cas, à cette vision des
Mais
choses.
Mais est-ce que, quelque part, on a déjà aussi cette prise en compte qui a déjà progressé? Nous, on regarde les choses depuis des années et des années. Est-ce qu'on sent un mûrissement un petit peu de dire, tiens, maintenant, il faut vraiment cranter un peu plus loin et peut-être légèrement plus vite? Est-ce que ce genre de choses, ça se voit ou pas encore?
Ça s'entend.
Ça s'entend. Il y a déjà des paroles qui arrivent. Voilà. C'est pas mal.
Ça s'entend un peu plus. Il reste à se mettre en action quand même.
D'accord. Ah, ça, c'est un peu plus long.
C'est un peu plus long.
C'est un peu plus long, un peu plus contraignant. Alors, merci beaucoup, ma chère Sophie. En ce qui concerne tout ça, on parlait d'obligation de résultats. On en parlait. Vœu, hein, pas pieux j'espère, mais un vœu, aussi la bonne conception qui nous permet d'aller loin, parce qu'à l'heure actuelle finalement quand la conception est bien prise en compte, on a quelque chose qui est largement adapté à ce qu'on a besoin.
Oui absolument. L'idée c'est effectivement, alors je rebondis un petit peu aussi sur ce qui a été dit, parce qu'il y a aussi la volonté du, vous parliez de, comment, de la, on va dire de pérenniser le système, ou en tout cas d'une rentabilité sur 6, 8, 10 ans d'une installation. Mais encore faut-il que le client qui construit l'immeuble se sente concerné. On va se sentir concerné sur un projet qui va être, par exemple, pour une foncière, pour un bailleur, ou pour notamment dans le tertiaire, puisqu'on a besoin de pérenniser le bâtiment le plus longtemps possible pour qu'il nous coûte le moins cher possible sur le long terme. Mmh. Sauf que quand un acquéreur achète un appartement, un logement neuf notamment, en fait, il l'achète. Et le maître d'ouvrage va plutôt avoir un regard sur le coût réel de son bâtiment et pas forcément le coût sur un moyen ou long terme. Là où par contre l'acquéreur, lui, va peut-être le vouloir. C'est pour ça que je reviens effectivement à l'importance de sensibiliser les personnes à cette problématique pour qu'ils se sentent concernés. Parce que si derrière on a une demande qui se sent concernée, on changera du coup l'offre.
C'est quelque chose que tu retrouves peut-être moins en tertiaire, puisque dans le tertiaire, quand on positionne un bâtiment, on regarde tout de suite l'impact qu'il va avoir au niveau financier et d'investissement qui va être sur 7, 8, 10 ans. Tandis que sur une maison, enfin un habitat, on le veut immédiat, mais on veut être bien tout de suite. Et puis j'ai bouclé mon budget, ça s'arrête là. J'ai peut-être mes mensualités, mais derrière, j'en suis là et j'irai pas plus loin. Tandis que un bâtiment qui est à vocation professionnelle, bah, lui, il faut déjà réfléchir à son évolution et à son adaptation.
Oui.
Beaucoup plus.
Tout à fait.
Je ne dis pas que ce n'est pas fait pour le logement. Hein, mais...
Non, il y a des logements qui effectivement, tout n'est pas une généralité, mais on va dire dans la plupart des cas. Mais effectivement, le tertiaire n'a pas la même fonctionnalité que le logement. Alors déjà, on est plus sujet à une réglementation plus poussée, puisque souvent on est dans le cadre des ERP. Mmh. Donc on a déjà des systèmes de traitement d'air qui rentre, qui rentre en jeu. Et effectivement, souvent, le client veut un système performant qui fonctionne sur le long terme. Ce qu'on ne va pas forcément justement retrouver dans le logement. Voilà, c'est pour ça que je voulais insister sur ce point-là.
Comme quoi, en raisonnant un petit peu de manière tertiaire vers nos logements, on va déjà faire un pas supplémentaire intéressant.
Évidemment, tout à fait. Ouais. Et c'est ce qu'il faudrait.
Et donc, du coup, comme le tertiaire sait très bien le faire aussi, l'entretien des bâtiments.
Oui.
Hein, parce qu'on le voit, hein, il y a 80% des bâtiments qui ont un suivi entretien, alors que dans l'habitat, c'est 21%. Donc on est déjà sur un sacré delta. Pour ces formations, pour ce suivi, mon cher Renaud, c'est à toi la parole sur le coup. La formation, c'est pas quelque chose qui est laissé au hasard, c'est quelque chose qui se pose dans le temps. Mais par contre, ça prend du temps aussi pour préparer les personnes qui vont devoir suivre tout cela. Et chez les compagnons, comment ça se passe ?
Alors chez les compagnons, comment ça se passe ? On a un centre de formation qui est sur Amiens. Sur lequel on dispense de la formation sur la ventilation, exclusivement sur la ventilation. On a un très très grand plateau pour accueillir nos jeunes qui sont sur le Tour de France et également les entreprises qui souhaitent faire de la formation d'entreprise au sein de bureaux d'études, d'entreprises d'installation ou même carrément des services maintenance pour des entreprises tertiaires ou même industrielles. Et c'est tout au long de l'année et on les amène à un niveau où déjà on leur apprend à poser une bouche.
La mettre au bon endroit. Souvent, quelquefois, elles ont des spécificités, ces bouches d'extraction d'air, puisque souvent elles sont même
bien
interverties.
Oui, tout à fait. Bien la placer. Pourquoi on met tel débit à tel endroit? Comment raccorder la gaine qui va sur ce fût qui est sur cette bouche? On rentre dans les détails, mais ce sont des principes de base qui sont transmis aujourd'hui sur le tas et qui ne sont pas forcément transmis dans un centre de formation. Voilà. Pourquoi on a les tuyaux qui sont isolés, les gaines de ventilation, pourquoi elles sont isolées?
On peut donner un petit message à tout le monde. Quand vous voulez faire, par exemple, du rafraîchissement, hein, il faut isoler vos gaines parce que sinon vous allez avoir des soucis de condensation assez dramatiques. Et il ne faut surtout pas hésiter à faire appel aux professionnels qui savent. Parce que, comme on le dit toujours, la ventilation ou l'air, ce n'est pas très compliqué, c'est complexe, c'est autre chose. Donc il faut savoir bien tout mettre en regard et en concordance et surtout de bien ouvrir ses chakras pour aller chercher tout ça de droite et de gauche. Et donc du coup, pour la formation, elle distille finalement depuis ce qu'on retrouve la conception, parce qu'elle est à toutes les étapes qu'on a énoncées tout à l'heure, je pense.
On parle beaucoup de conception, surtout de la partie réglementaire, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut bien contrôler aussi derrière, c'est-à-dire qu'on va concevoir sur la partie primaire du projet, mais plus le projet va en découler, il faudra bien qu'on vérifie qu'on respecte chaque étape. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la réception du chantier et après sur la partie exploitation.
Et puis prendre le temps de bien se former pour ensuite bien œuvrer derrière, parce que l'excellence qu'on retrouve chez les compagnons du devoir, c'est toujours cette magnifique image, mais qui n'est pas galvaudée, puisqu'elle est réelle du travail bien fait, de la belle ouvrage. Hein. On va reprendre les termes que vous sont consacrés. Ça veut dire qu'à un moment donné aussi, c'est un état d'esprit qui nous permet d'avancer. Est-ce que dans cet état d'esprit, on pousse un petit peu les élèves à leur faire comprendre qu'un bon geste, de bien faire une ventilation, de bien faire tout le système dans le bâtiment, ça ne va pas être pour un an, mais on va contribuer au bien-être des personnes et des occupants pendant peut-être 30 ans, 35 ans ?
Alors, oui, tout à fait. On les amène à ce niveau d'exigence-là et d'autant plus à se dire mais qu'il n'y a pas que du neuf, il y a aussi énormément de rénovation et qu'on doit être aussi capable d'intervenir sur un tronçon et pas que sur une installation globale neuve. Voilà. Donc on amène ce niveau d'exigence vraiment au plus poussé pour qu'ils puissent répondre à 100% des cas de figure qu'ils vont rencontrer, eux, dans les entreprises dans lesquelles ils vont aller exercer.
Et pour tous les jeunes qui, là, peuvent nous écouter, est-ce que c'est compliqué de rejoindre les formations des compagnons du devoir et de devenir compagnon ?
Pas du tout, il faut avoir l'envie.
C'est toujours le mot. Hein.
L'envie, la motivation déjà donc de vouloir faire partie d'un mouvement d'ouvriers qualifiés.
Très qualifiés.
D'avoir envie de voyager et de partager ses connaissances avec les autres. Voilà. Pas seulement qu'avec ceux de notre métier, mais de tous les métiers confondus.
Donc, si vous qui nous écoutez, si vous avez envie ou si vous sentez que chez vos jeunes de les emmener, parce que même les entreprises peuvent pousser les jeunes à aller faire de la formation continue et de reprendre un cycle qui leur permette d'aller beaucoup plus loin. C'est que du bonheur pour l'entreprise qui va avoir des personnes beaucoup plus performantes finalement et performantes dans la qualité aussi sur le sujet.
Que du bonheur pour l'entreprise puisqu'ils vont dans la plupart des cas avoir quelqu'un qui va ressortir hautement qualifié, opérationnel tout de suite dans les premières semaines qui vont suivre son accueil. Et toutes ces formations-là, ils vont pouvoir les retrouver aussi sur le site internet.
Très bien. En ce qui concerne, ça fait un bon plug avec tout ce que tu viens de nous dire, parce que on va aller un petit peu plus loin maintenant, parce qu'on a des performances à parler sur le PBD et de présenter ce qu'est le PBD. Et après, on va parler un petit peu de. Il nous reste 4-5 minutes pour avant la fin de l'émission. Et c'est vrai qu'il y a des points importants et un sujet qui compte, notamment le PBD. Qu'est-ce que c'est ? Qui veut prendre la main pour parler de dire ce qu'est le PBD ? Sophie, pourquoi pas, pour la présentation. Hein, c'est l'Energy Performance of Building Directive. Donc c'est une.
C'est exactement ça. Donc c'est la nouvelle directive qui a été révisée au niveau européen et qui est en cours de transposition en droit français.
Voilà, qui doit arriver pour 2026 obligatoire en France.
Ouais, et là, je crois que c'est mai 2026.
Mai 2026 et qui doit viser à réduire encore l'empreinte énergétique et carbone. Mais surtout, il y a quelques prises en compte à l'intérieur dont on peut parler aujourd'hui, hein, puisqu'il y a une petite annexe de communication à la commission sur la ventilation qui a été donnée, et avec un petit avis qui est assez intéressant. Et la personne qui m'avait répondu sur ce petit avis, c'est Priscilla, donc je vais te donner la parole, Priscilla, sur ce que tu m'as écrit l'autre jour.
Alors, en effet, sur ce petit avis, on voit clairement énoncer, enfin, la notion de taux de renouvellement au niveau de la ventilation et de la qualité d'air. Ah,
taux de renouvellement de l'air.
Oui, taux de renouvellement de l'air. On n'est plus du tout sur des notions de simple débit d'air extrait, comme on avait aujourd'hui, où on n'a aucune résultante sur les zones d'occupées. Donc là, on va pouvoir enfin vraiment maîtriser ce qui se passe à l'intérieur des logements, ce qui se passe à l'intérieur des locaux, même tertiaires, des bureaux, enfin tout type de bâtiment, en regardant ce taux de renouvellement d'air.
Alors, juste pour revenir sur le principe, différence entre débit et taux de renouvellement d'air. Et l'avantage du taux de renouvellement d'air, puisqu'on va vers celui-ci, c'est qu'il a quelque chose qui doit plaire, qui doit convenir.
Oui. Alors, un débit, c'est une quantité d'air qui va passer dans une gaine ou à travers une bouche de soufflage, par exemple, ou une bouche d'extraction. Alors que quand on parle de taux de renouvellement d'air, on prend l'ensemble du volume d'une pièce et on va vérifier que cet ensemble est renouvelé à quelle fréquence. Donc, une fois par heure, deux fois par heure.
0,5 fois par heure.
Oui, on est plus sur du 0,2 en logement. Et sur du tertiaire, on arrive à monter sur du 0,8. Mais voilà, pour
quand
ceux
on,
qui sont...
Quand on pense que pour ces taux de renouvellement, dans certains milieux chirurgicaux, on est à 15 volumeurs. Ce qui peut être assez colossal.
Alors, il faut se méfier parce qu'il y a le taux de brassage. Il ne faut pas le confondre avec le taux de brassage qui est à 15. Alors. Et le taux de renouvellement d'air est plutôt à 6.
Voilà. Donc, ce taux de renouvellement, évidemment, il est souhaitable puisqu'il va considérer vraiment le bâtiment dans lequel on est. Il va être beaucoup plus précis puisque on va revenir à l'origine. Hein, les débits ont été traités et établis pour faire une évacuation de l'humidité qui était le principal point de gênant à l'intérieur des logements. Et on va vers ce taux de renouvellement. Alors, taux de renouvellement, on arrive à la fin de l'émission, on m'a fait un petit signe, mais il y a quelque chose qui est intéressant à évoquer. On voit à l'heure actuelle, et ça c'est une notion qu'on n'avait pas avant et qui moi fait quand même relativement du bien parce qu'on parle de ce taux de renouvellement, ça approche peut-être des choses pour les résultats. Plusieurs entités, depuis quelques mois, ont émis le fait que le taux de renouvellement fallait le prendre en compte, il fallait aller plus loin que celui-ci et il fallait quelque part aussi, et ils l'écrivent, hein, c'est pas à moi qui le dis, mais ils l'écrivent, le Haut Conseil de la Santé publique a dit qu'il fallait revoir l'arrêté de 82 qui ne parlait que de débit pour aller plus loin et aussi sur ces taux de renouvellement. Ce matin, et même pas plus tard que ce matin, mais hier exactement, l'Académie nationale de médecine a émis un avis qui va dans le même sens, hein, considérant les taux de renouvellement qui doivent être pris en compte et la modification, l'évolution de l'arrêté de 82. On revoit aussi ce que tu viens de dire, Priscilla, Commission européenne avec la directive le PBD, c'est aussi ça qui est pris en compte. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire sur ce plan-là. Espérons que ça aille assez rapidement sur le sujet, parce que c'est une vraie conséquence, je dirais, souhaitable. Enfin, c'est un vrai élan souhaitable pour améliorer notre qualité de l'air et le bien-être de tous dans les bâtiments.
Jusqu'à la gestion des pandémies.
Jusqu'à aller la gestion des pandémies, qui n'est pas quelque chose d'anodin sur le sujet, bien entendu. On arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup. Je pense qu'après le taux de renouvellement, on parlera peut-être aussi de l'âge de l'air, parce que outre le fait d'avoir un bâtiment où on va avoir un renouvellement suffisant par rapport au volume du bâtiment et ce qui s'y passe, eh ben, il va falloir que ce traitement aussi se fasse d'une certaine manière pour qu'on passe bien partout et qu'on n'ait pas de zone morte et un bon renouvellement, plus que aussi un taux de renouvellement. Merci beaucoup à toutes et tous. Un petit mot, Sophie. On retrouve les actualités de Eurovent Certification sur
www.eurovent-certification.com ou sur LinkedIn.
Et voilà. Clément, on retrouve
sur notre site internet snrcingénierie.fr.
Très bien, merci beaucoup. Claire-Sophie.
Et moi, je ne veux pas dire où on retrouve. Je veux juste dire que je suis contente de cette nouvelle directive, le sens où on commence à avoir les enjeux de qualité. Elle va être transcrite en droit français, mais on a quand même aujourd'hui, on parle beaucoup trop. Mais on parle beaucoup trop de performance énergétique sans prendre en compte l'occupant, ce qu'il respire, et du coup, on voit effectivement dans ces avancées. Alors toujours. Pas forcément parfaite, mais en tout cas, on sent que énergie et qualité de l'air intérieur vont de plus en plus ensemble.
Dans 20 secondes, ça va être coupé. Mon cher Renaud, on retrouve tout sur les...
Alors, vous allez nous retrouver sur le site des Compagnons du Devoir. Et pour l'activité personnelle de l'Institut, ce sera sur dumetier.org.
Dumetier.org. Et puis, Priscilla, pour retrouver le CRQA.
CRQA.org.
On va retrouver tout le monde. On a passé un excellent moment ensemble. On aurait pu y passer encore beaucoup de temps. On reviendra sur toutes ces notions et notamment sur cette avancée qu'on va suivre. Hein. Pourquoi pas cette modification rapide sur un arrêté de 82 qui mérite pas d'être malmené, mais qui mérite d'évoluer tout simplement. Merci à toutes et à tous. Passez... une bonne fin de journée, prenez l'air, profitez de ces journées nationales de la qualité de l'air parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour continuer à s'informer et à se dire que c'est facile finalement de faire vis-à-vis de l'air puisqu'il faut en faire un peu chaque jour et à chaque jour suffit sa peine. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt, c'est Élémentaire.
Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur toutes les plateformes de streaming.